Canal Academy. Vous allez entendre la chronique économique et financière de Monsieur Jacques Delarosière de l'Académie des sciences morales et politiques.
Je suis Jacques Delarosière, je suis membre de l'Académie des sciences morales et politiques et je vais vous parler aujourd'hui des conséquences négatives de l'absence d'un vrai système monétaire international. Alors le préjugé qui nous gouverne est tout à fait différent. Le préjugé consiste à dire que l'absence d'un vrai système monétaire international n'a aucune conséquence grave sur la stabilité de notre économie mondiale. Alors ça nous arrange de croire ça, mais en réalité, ce n'est pas exact et nous allons parcourir un petit chemin qui va nous le démontrer. Essayons d'être lucides au risque d'être considérés comme politiquement incorrects. Le régime des taux de change stables, établi à la fin de la guerre, et accompagné, et dans une grande mesure, il a permis la prospérité des Trente Glorieuses qui ont daté de 1945 à 1975. Donc ce régime très stable avait permis la prospérité de nos économies. Mais depuis l'écroulement de ce système, qu'on appelle le système de Bretton Woods, parce qu'il a été négocié à Bretton Woods, une localité du nord-est des États-Unis, en 1944. Depuis l'écroulement de ce système de Bretton Woods, en 1971, le monde a traversé une longue succession de crises financières, dont celle de 2007-2008, qui a été la plus grave en termes de récession et de chômage, et qui a sans doute dépassé la crise de 1929. Alors pourquoi est-ce que je soutiens que c'est la chute du système de Bretton Woods, des taux de change stables, qui a ouvert la voie à ces crises financières à répétition et à la surfinanciarisation qui caractérise et mine le monde d'aujourd'hui? Tel est en effet le débat. Or, le consensus forgé à partir de la fin des années 60, du début des années 70, a toujours pris parti pour une thèse opposée à celle que je vais exposer auprès de vous. De fait, la vue dominante des économistes a insisté sur les avantages qu'étaient supposés comporter les taux de change flottants, c'est-à-dire l'abandon du taux de change fixe. Ce paradigme avait, disait-on, le mérite, celui des taux de change flottants, de combiner trois choses. D'abord, l'autonomie des politiques économiques nationales, qui n'était plus gênée par la contrainte du taux de change extérieur, et par là même, cela favorisait la recherche pour chaque pays de sa croissance maximale. En deuxième lieu, l'abandon des taux de change fixes permettait de libérer les mouvements de capitaux dont on escomptait les effets favorables sur l'investissement et la diffusion des progrès technologiques. Et pourtant, sur ce deuxième point, nous pouvons démontrer que la création massive de liquidités internationales avait fragilisé et même miné la stabilité financière. Et le troisième point de l'argument en triangle que je vous présente, c'était que, en raison de ce qu'on appelait à l'époque le triangle des incompatibilités, le troisième élément de la trilogie, à savoir la stabilité des changes, ne pouvait pas coexister avec les deux précédentes, c'est-à-dire avec la liberté de faire ce qu'on voulait dans le choix de sa politique économique et la liberté de circulation des mouvements de capitaux. Et comme l'élément stabilité des changes n'était pas conciliable avec les deux autres éléments considérés comme plus importants, il fallait abandonner la stabilité des changes. Et le consensus qui s'est développé à l'époque et qui existe toujours d'ailleurs, soulignait que le flottement des changes tendait aussi à équilibrer les balances des paiements mondiales en permettant aux pays déficitaires de rétablir leur position extérieure par le jeu de la dépréciation de leur taux de change. Et le mécanisme jouant à l'inverse pour les pays structurellement créditeurs dont le change était supposé s'apprécier. Mais en fait, la réalité a été toute différente. Le flottement des changes n'a pas fonctionné comme le voulait la théorie que je viens de rappeler. Les pays qui étaient en position de créanciers structurels, pays comme la Chine, le Japon, les producteurs de pétrole, ont souhaité éviter une appréciation de leur taux de change afin de préserver leur compétitivité sur les marchés commerciaux. Ils ont de ce fait, ces pays structurellement créanciers, acheté des montants considérables de dollars pour éviter que le dollar ne baisse et que leur propre monnaie ne monte, et cela a contribué à l'augmentation de la liquidité internationale. Les États-Unis, débiteurs permanents dans le système, bénéficiaient ainsi de cette relative stabilité du dollar que leur assuraient, par leurs achats de la devise américaine, les pays créanciers. Les États-Unis évitaient donc la dépréciation continue du dollar, dépréciation qui aurait eu pour effet de les appauvrir par le jeu de l'inflation importée. Quand sa monnaie se déprécie, les importations coûtent plus cher. Et donc les États-Unis étaient en quelque sorte exemptés de la contrainte extérieure du change qui s'applique à tous les autres États. Dans ces conditions, me dira-t-on, pourquoi s'inquiéter des conséquences de la chute du système des taux de change de Bretton Woods ? Pour plusieurs raisons. D'abord, la liberté de laisser flotter son change, voire de le manipuler, parce qu'on passe assez facilement du flottement à la manipulation, enlève à la communauté économique mondiale le ciment qui tenait ensemble l'édifice conçu en 1944, c'est-à-dire la discipline collective en matière de politique économique. Si, dans le vieux système de Bretton Woods, un pays souhaitait dévier de la ligne commune de stabilité considérée comme raisonnable, en augmentant son déficit budgétaire ou en donnant libre cours à l'octroi du crédit, ce pays déviant était aussi tôt sanctionné par le marché des changes. En effet, comme un tel pays relançait la demande intérieure, sa balance commerciale se détériorait, son inflation tendait à monter, les sorties de capitaux prenaient de l'ampleur et sa monnaie se dépréciait. Et face au risque de dévaluation, il fallait que ce pays déviant, qui était contraint par la marge de fluctuation maximale du FMI de ne laisser son change se déprécier que de 1% au maximum, il devait alors s'expliquer devant le Fonds monétaire et rentrer dans le rang, quitte à être autorisé, le cas échéant, à pratiquer une dévaluation. Mais la dévaluation n'était pas automatique. Il fallait prendre sa canne et son chapeau, aller à Washington au Fonds monétaire international et la négocier, cette dévaluation. La stabilité des changes agissait donc comme une sorte de corde de rappel. Or, ça n'existe plus aujourd'hui. Et on comprend que l'abandon en 1971-73 de la discipline collective en matière de change est autorisé désormais la liberté totale des politiques économiques. Liberté et laisser faire pour tous, plus de sanctions au niveau des changes. De fait, c'est bien le souci de conserver leur liberté d'action qui avait amené les autorités américaines à leur décision du mois d'août 1971, qui consistait à quitter le système de Bretton Woods, à abolir la convertibilité en or du dollar et à dévaluer unilatéralement la monnaie américaine. Et donc, d'une certaine manière, la politique des États-Unis, qui était à l'époque engagée très loin dans le financement de la guerre du Vietnam, cette politique qui était gênée par l'existence de cette discipline collective que je rappelle, puisqu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi pour financer leur guerre du Vietnam, les États-Unis ont préféré finalement abandonner le système qui leur paraissait trop contraignant et dont ils étaient d'ailleurs assez loin de pouvoir assurer l'exécution. On a calculé que les réserves d'or américaines étaient inférieures à la moitié des dollars existants dans les banques centrales étrangères et qui avaient vocation à être convertibles en or. Vous voyez donc que la possibilité de convertir en or les dollars n'était pas assurée. Et donc, aujourd'hui que nous sommes saisis par les initiatives nationalistes et anti-multilatéralistes du président Trump, nous avons là, sous Nixon, la manifestation d'une forme de nationalisme s'attaquant à la conception multilatérale forgée à la fin de la guerre, sous l'influence d'ailleurs des États-Unis. Alors, est-ce que le président Nixon, en août 1971, est-ce qu'il était conscient des conséquences profondes qu'allait entraîner sa décision de rompre le système de stabilité d'échange? Personnellement, je ne le pense pas. Ces conséquences lointaines, mais qui se sont manifestées au bout de quelques années, sont très importantes. La première, c'est que la liberté de dépenser allait régner désormais sans contrainte. À l'époque des taux de change fixes, si on voulait trop dépenser en matière de dépenses publiques, par exemple, on était immédiatement sanctionné par la dépréciation de son taux de change. Et à partir de la fin de Bretton Woods, 73, on a usé et abusé pendant une quarantaine d'années de la liberté de dépenser. La montée corrélative de l'endettement public avec ses effets cumulatifs atteint aujourd'hui des sommets inouïs qui minent la stabilité du système financier. L'innovation financière a facilité cette financiarisation universelle dont nous souffrons depuis 40 ans. Et la déréglementation, qui a commencé aussi dans les années 80, n'a fait qu'attiser le phénomène. L'ensemble des élites a laissé faire le phénomène que je décris, et sans que soit engagé un véritable débat intellectuel et démocratique sur le bien fondé de cette politique et sur les conséquences qu'elle aurait sur les générations futures, ce qui est pour le moins étrange. Et en second lieu, on constate que depuis la fin de Bretton Woods, ce sont les marchés financiers qui ont pris une importance toujours croissante. Or, à la différence des marchés de biens et de services non financiers, où le coût de revient constitue toujours une donnée fondamentale qui gouverne l'équilibre des prix, quand il s'agit des marchés financiers, on voit qu'ils sont beaucoup plus incertains et fluctuants. Ils sont influencés par les sentiments des opérateurs et par des mouvements spéculatifs ou des craintes spéculatives et politiques. Il n'y a souvent ni plafond ni plancher objectif autour d'un prix de revient dans le domaine financier. Il n'en est pas de même dans le domaine des biens. Il y a toujours une marge entre le prix que vous allez payer pour une tonne d'acier, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais ce n'est pas illimité ou quasiment illimité. Dans le domaine de la finance, c'est quasiment illimité. Et la faculté que se donnent les banques centrales de créer librement de la monnaie, de la fiat monnaie, c'est-à-dire de la monnaie qu'on décide de créer, ne fait qu'amplifier la volatilité que j'évoque. D'où les vagues de booms and busts, c'est-à-dire de hausses et de baisses, que nous n'avons cessé de connaître depuis. Du temps de Bretton Woods, l'économie mondiale était ancrée sur la stabilité des changes. Les attentes, ce qu'on appelle les expectations en anglo-saxon, étaient de la sorte cadrées et l'importance des marchés financiers était contenue. Aujourd'hui, c'est la liberté et l'ampleur des flux de capitaux qui sont déterminants. Il en résulte que c'est le cycle financier qui nous gouverne avec les phases d'expansion et d'éclatement qui caractérisent ce cycle. On croyait s'être libéré de la contrainte d'échange et d'avoir acquis enfin la liberté de sa politique économique. On s'aperçoit maintenant que la politique économique est totalement déterminée et dominée par les marchés financiers. Alors, quid de l'avenir ? Sans prétendre vouloir revenir à l'identique, au système de Bretton Woods, dont les ajustements automatiques peuvent être à bon droit considérés comme trop systématiques et asymétriques, car ils pénalisent les pays en déficit et avantagent les pays créditeurs, il serait néanmoins important de stabiliser intelligemment le système mondial d'échange. Cela est loin d'être impossible. Les mécanismes existent qui pourraient être mis en œuvre, par exemple un panier de grandes monnaies dont les rapports seraient cadrés et surveillés par une autorité internationale comme le Fonds monétaire. Mais de telles propositions supposent volonté politique et leadership, c'est-à-dire désir d'agir. Pour le moment, rien ne paraît aller dans cette direction. Les grands acteurs du monde économique, notamment les États-Unis, la Chine, le Japon, mais aussi l'Allemagne, trouvent aujourd'hui un intérêt au non-système existant. Les Américains peuvent vivre et croître à crédit, tout en bénéficiant et en jouissant de la suprématie diplomatique du dollar qui est stabilisée par les créanciers du système. Quant aux pays exportateurs nets, ils achètent et accumulent des actifs en dollars tout en profitant de la croissance générés par leurs exportations, qui ne sont pas gênées par des devises trop appréciantes. Dans cet équilibre fragile d'intérêts particuliers, je ne vois guère aujourd'hui d'incitation à réformer les choses en profondeur dans un souci multilatéral. Un système monétaire international n'est pas, en fin de compte, qu'une manière de coordonner les politiques économiques des grands acteurs. Mais c'est déjà beaucoup. Et cette coordination implique une certaine limitation des souverainetés nationales afin de pouvoir maximiser le bien commun. Les données politiques actuelles, ce qui se voit aux États-Unis et ce qui se voit ailleurs aussi en matière de nationalisme et de populisme, ne semblent guère compatibles avec cette conception de l'intérêt collectif. Au fond, les gouvernements ont cru retrouver leur liberté pour déterminer leur politique économique lors de la chute de Bretton Woods. En fait, ils n'ont fait que se subordonner au marché en profitant passivement des facilités d'endettement qui ont prédominé depuis lors. Je vous remercie pour votre attention.